week-end extra avec Mathieu Beaumont, votre magazine du week-end.
C'est l'une des meilleures séries documentaires, à mon avis, qui a été produite depuis longtemps sur les histoires de la guerre. Vous avez vu les volets Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, ainsi que sur Staline et sur Adolf Hitler. Et il y a diffusé cette semaine sur les grands reportages, mais si vous l'avez manqué, ce soir et samedi prochain, 22h30 sur Ici Télé et IciTout.tv, Apocalypse, la paix impossible, la période de 1918 à 1926. Pour en parler, elle est la productrice d'Apocalypse. Josette Normandeau est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
C'est toute une filière qui a été ouverte. On se souvient du premier volet qui était sur la Deuxième Guerre mondiale, les premiers films qui ont été représentés avec la narration de Mathieu Kassovitz. Ça a marqué l'imaginaire. Êtes-vous surprise qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, on parle encore, puis on a encore de nouveaux volets à présenter de cette série-là.
Ben, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, qui était le premier volet, oui, mais qui remonte maintenant à plus de 10 ans. Il y a la Première Guerre mondiale, oui, que nous avons diffusée pour la première fois il y a maintenant 4 ans, qui était au début des commémorations de la Première Guerre mondiale. Et là, on est à la fin des commémorations avec cette journée de l'armistice du 11 novembre. Oui, on est toujours un peu frappé par l'intérêt des gens, mais je pense que la restauration des archives, le peu d'archives qui existent de cette période-là, la colorisation des archives, le travail de son qui a été fait sur les archives, la voix de Mathieu Kassovitz, puis aussi le grand talent de Isabelle Clark et Daniel Costel, qui arrivent à nous raconter une histoire, à trouver une façon de toujours repartir de la petite histoire, des petits faits, des gens, pour nous ramener dans la grande histoire. C'est leur talent, c'est presque comme écouter une fiction quand on est en train de regarder un documentaire.
Ça paraissait surprenant quand la série sur la Première Guerre mondiale est sortie. Moi, j'ai été excessivement surpris que vous étiez en mesure de mettre la main sur autant de documents visuels de l'époque.
Nous aussi.
Ah oui? C'est combien de temps, le premier défrichage sur les premiers documents? Ça prend une recherche de combien de temps avant d'arriver?
Plusieurs années, puis je dois dire que même pour nous, quand il y a eu le premier déclenchement de développement avec France Télévisions à l'époque, avec Louis et nos équipes ici au Canada chez Ideacom, on s'est dit, parce que France Télévisions avait dit « voulez-vous faire 6 heures? » Puis nous, on avait dit « ouf, 6 heures, est-ce qu'on va être capable de même faire 4 heures? » Parce que c'est les débuts du cinéma, donc on savait pas du tout ce qu'on était pour trouver. Et pendant plusieurs années, nous avons eu plusieurs documentalistes et recherchistes qui sont promenés un peu partout sur la planète ou qui ont donné des mandats à d'autres documentalistes dans certains pays, comme par exemple, on pouvait être en Estonie, en Lituanie, où on avait eu ouï dire que dans les sous-sols de tel endroit reposaient des boîtes d'archives qui n'avaient jamais été vraiment documentées. Alors les filles ou les garçons, avec les petits gants blancs, descendaient dans les sous-sols, ouvrir des boîtes en espérant que ça ne prenne pas en feu parce que c'est extrêmement volatile. Donc, et on ne savait pas ce qu'on était pour découvrir. Puis en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des gens qui étaient des amateurs de transfert d'archives de particuliers qui nous ont appelés aussi pour dire, ben dans notre magasin, on a reçu des archives qu'on nous a demandé de transférer pour pas qu'il y ait de déperdition d'archives. Et là-dedans, on a aussi trouvé des perles. Puis après, il y a...
Mais ça, c'est après la diffusion de la première série sur la Deuxième Guerre mondiale?
Oui, oui. Là, les gens ont compris qu'il pouvait y avoir matière à intérêt sur les archives. Et il y a bien des gens, et même par exemple, je donne un exemple, Imperial War Museum de Londres, qui, lui, a ouvert à partir justement de 2014, une division où ils accueillent des archives personnelles. Mais pour pouvoir les déposer dans le fonds patrimonial du musée, il faut être capable de documenter les archives qu'on a, de dire, sur ces archives-là, ça a été tourné, par exemple, dans la ville de Québec, c'était ma grand-mère, elle s'appelait Cécile Marcoux, mon grand-père était dessus, il s'appelait Édouard Lefebvre, etc., etc. Et là, parce qu'on était capable de mettre des noms, des dates, des lieux, etc., ça devient intéressant pour le musée de documenter ça. Mais...
Dans votre cas, c'était pas ça?
Non.
Donc...
Non.
Mais là, il faut être sûr également.
On en a trouvé 500 heures sur la planète.
500 heures totales?
Oui.
Ce qui est rien, là, pour...
Non. pour faire 4 heures.
Et combien de ces 500 heures-là, vous avez été, vous dites il y a 4 heures, mais...
On en a fait 5 à la fin.
Ah oui, vous ne pouvez pas utiliser beaucoup de ce matériel. Il y a beaucoup de matériel qui était inutilisable carrément.
Ben, presque tout a été restauré.
Okay.
Donc ça, c'était le gros défi aussi, c'était la qualité des archives. Il faut comprendre que les archives, elles peuvent être tous scratchées avec toutes sortes de défauts dedans, etc. Donc c'est jusqu'où on peut se permettre de restaurer des archives parce qu'on n'a pas des, on n'est pas un gouvernement, on n'a pas des fonds
illimités.
Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on a découvert qu'il y avait toutes sortes de on tournait manuellement à l'époque, fait qu'il n'y avait pas de standard. Fait que c'est pour ça qu'on a toujours des petits bonhommes qui marchent un petit peu drôles, mais il n'y en a pas un qui marchait à la même vitesse. Donc, il faut tout restaurer ça pour que nous, quand on regarde ça, monsieur, madame, tout le monde dans votre salon cette fin de semaine, eh bien, vous regardez ça, puis ça a l'air normal. Ils ont l'air des gens comme vous et moi qui marchons ou déambulons ou étions quelque part. Mais il y a un gros, gros, gros travail derrière de technique. Et il n'y avait pas de son.
Non, c'est ça. Il faut recréer une ambiance sonore autour. Josette Normandeau est la productrice d'Apocalypse. La version La paix impossible, ce nouveau segment est présenté, rediffusé ce soir d'ailleurs sur les ondes de Ici Télé. C'est disponible sur Ici Tout TV. Ce sera rediffusé à quelques endroits également. Si vous avez regardé RDI, les grands reportages ont été présentés cette semaine. C'est là où j'ai eu l'occasion de voir. Quand vous prenez ces éléments, puis est-ce que vous avez été obligé à un certain moment de même prendre des éléments d'archives qui ne dataient pas de cette époque-là, de l'époque que vous, dans laquelle vous allez jouer?
Non.
Pour vous, c'était important d'être capable de certifier que si on présente un élément qui date de 1918, c'est pas quelque chose qui a été filmé en 1923.
Non, et sinon, on devrait le dire. Et
ouais.
Même quand on a fait la Première Guerre mondiale, on a même expliqué en début de film que certaines des scènes sont des reconstitutions qui ont été faites à l'époque par l'armée. Mais évidemment, avec les caméras, la taille des caméras à l'époque, quand ils étaient au front, ils sortaient pas des tranchées avec les caméras pour aller filmer les bombardements. Hein, ils seraient tous morts là. Alors, on a même dit que plusieurs de ces scènes, elles sont d'époque, mais elles ont été refaites à l'époque. Mais non, on n'a pas fait ça. Et même le son, je veux vous donner un exemple. Dans la Première Guerre mondiale, par exemple, on a trouvé un homme qui, depuis peut-être 40 ans, collectionne tous les sons originaux de tout ce qui a trait à la Première Guerre mondiale. Donc lui, dès que quelqu'un répare un fusil, une mitraillette, un moteur d'avion, un moteur de char d'assaut, je sais pas quoi, il se précipite avec ses trucs, puis là, il démarre le truc ou il tire le coup de canon ou le coup de fusil, il va enregistrer les sons.
Ah, oui.
Alors, tous les sons que nous avons sont des sons originaux. Nous avons un fanbase que si on n'a pas le bon son à la bonne place, machin truc, on se fait tomber dessus, on se fait crucifier. Ben non, c'était pas ça, parce que c'était machin truc, etc. Alors, on a vraiment là des gens comme ça, puis après, on a des concepteurs sonores qui ont travaillé avec quelqu'un qui a des banques de sons comme celle-là, et avec un mix sonore après pour tout redonner et faire le son. Mais c'est, il y a juste les couleurs. On a des équipes, on a une personne qui est responsable, cadre par cadre, de regarder l'image, de s'asseoir là. On a des cahiers de références visuelles. Et là, elle peut appeler tous les musées pour s'assurer que la robe de machin truc, c'est bien cette robe-là, elle était bien de cette couleur-là, les drapeaux. Et là, t'as les historiens qui sont flanqués de chaque côté qui disent, oui, mais tu sais, quand lui est en train de passer en revue le régiment d'un tel, mais il a changé de costume parce qu'il était en train de passer le régiment de son cousin. Donc, le drapeau qui est là ne peut pas être ce drapeau. Et là, ils chicanent entre eux pour savoir si les trois petites bandes, elles sont rouge, blanc, bleu ou bleu, blanc, rouge. Alors,
mais c'est fou le détail. Mais quand vous parlez de ça, Josette Normandeau, quand le projet a été accepté, Vous avez maintenant l'expérience, mais est-ce qu'il y a un moment où vous avez presque eu un regret de dire, mais dans quoi on s'est embarqué? On n'arrivera jamais?
Non, on est tellement fou que non seulement on s'est embarqué dans ces 5 heures puis ces 2 nouvelles heures, mais nous avons plein de plateformes numériques qui vont avec ça. On a développé un roman graphique où on a créé 10 personnages fictifs mais vraisemblables qui se promènent à travers le monde pour nous raconter l'histoire selon leur société. On est en train de sortir de ces jours-ci une application de réalité virtuelle et de réalité augmentée aussi qui est dans la trame narrative de la Première Guerre mondiale pour aller encore plus loin et mieux faire comprendre aux jeunes, puis aux plus jeunes aussi, comment c'était la guerre, qu'est-ce qui s'est passé, où c'était, comment ça s'est déclenché, les conséquences de la guerre.
Est-ce qu'il y a d'autres volets en préparation? Vous avez fait la Deuxième Guerre, vous avez fait Hitler, vous avez fait la Première Guerre mondiale, vous avez fait Staline, vous avez fait... là, on est dans la période post-Première Guerre mondiale, dans ce volet-ci, dans les deux épisodes d'une heure qui ont été présentés. C'est quoi le projet prochain?
Ben, Isabelle et Daniel, eux, travaillent pour l'Europe présentement sur la guerre froide.
Oui.
Et puis, on en a un autre, là, Louis et moi, auquel on est en train de réfléchir.
Ça pourrait être quoi?
Oh, ce sera une surprise.
Arrêtez donc, vous ne pouvez pas partir
je
comme ça.
Je reviendrai
vous surprise.
Voir.
Ah, excellent. Ben, Josette Normando, merci infiniment.
C'est moi
félicitations
qui vous remercie.
Pour le travail. C'est franchement captivant. Je rappelle les heures de diffusion ce soir, samedi prochain, 22h30.
Et c'est une centaine de personnes, des artisans incroyables qui ont travaillé à tout ça. Et sans tous ces talents, il n'y aurait pas de film comme ça.
Vous faites bien de le dire. Et c'est la narration toujours juste de Mathieu Kassovitz qui est derrière ce volet, La paix impossible 1918 à 1926.
Merci.
Merci.